la thématique « Pour habiter mieux », nous avons considéré qu'au-delà des discussions passionnantes que nous avons commencé d'avoir et qui étaient un peu franco-françaises, il était très important d'avoir une dimension comparative parce que cela éclaire toujours les problématiques et les enjeux. Et cette dimension comparative, qu'appelait d'ailleurs Maryse Lagnon tout à l'heure de ses voeux parce qu'elle évoquait le contexte européen, mais nous allons la voir dans un cadre vraiment international, grâce donc aux deux personnalités qui m'entourent, qui viennent toutes deux de l'OCDE, donc M. Rüdiger Arendt, qui est à ma droite, qui est chef de la division pour l'analyse économique, les données, les statistiques à l'OCDE, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes. Je ne me suis pas trompée, cher M. Arendt.
Bon.
Et d'autre part, M. Boris Cournède, qui est lui chef par intérim de la division d'économie politique à l'OCDE, département des affaires économiques. Ils vont donc, et je les en remercie à nouveau, nous tracer un tableau comparatif et le faire à deux voix. Et je crois que c'est M. Arendt qui commence, et donc je lui donne la parole.
Oui, bonjour. D'abord, merci de nous avoir invités. Nous sommes très honorés d'être ici et de présenter un peu les résultats de notre recherche à l'OCDE dans ce processus qui a vocation de fournir le processus de politique, de faire des lois. Et ça, disons, c'est un peu le but pour lequel l'OCDE est là, pour que les pays membres puissent faire des meilleures lois, puissent faire des meilleures politiques. Et si on peut directement alimenter ce processus, bien sûr, nous sommes très contents de pouvoir le faire. On vous a préparé pour commencer une petite carte, même deux petites cartes, où vous voyez des prix de logement en France. On a récemment fait un travail, on a rassemblé beaucoup de données, c'est pour ça qu'on était en mesure de faire cela. Et je pense que c'est intéressant en soi-même, c'est aussi très beau, mais c'est aussi ce que vous voyez, vous avez des différences énormes. Vous avez des régions en France où le mètre carré coûte plus que 8 000 euros, mais vous en avez aussi où ça coûte moins que 1 000 euros, ça veut dire grosso modo, vous avez des prix qui sont en dessous des prix de la construction. Et ça, c'est quand même très important de prendre ça en compte, parce que, évidemment, les problèmes de logement dans ces deux types d'endroits vont être très, très différentes, évidemment. Après, on a aussi regardé un peu l'évolution des prix de logement entre 2014 et 2021. Et là aussi, c'est intéressant parce que vous voyez, il y a pas mal de régions où les prix ont augmenté 30% en plus, mais il y a aussi des petites régions, des petites R plutôt, où vous voyez qu'il y a des prix qui ont baissé de 20 ou 30%. Alors on peut avoir en même temps des très fortes augmentations de prix de logement et en même temps que ça baisse ailleurs. C'est juste pour vous montrer un peu, pour ma petite introduction avec ça. Je passe à mon collègue Boris.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, de cette invitation. Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, comme le disait mon collègue Rüdiger Arendt, nous sommes très contents de pouvoir participer à cette journée, puisque c'est la vocation des travaux que nous menons à l'OCDE en général, et en particulier de ceux que nous avons effectués sur le logement, que de servir à alimenter l'élaboration des politiques publiques sur le fondement de l'analyse des expériences qui ont été celles des autres pays de l'OCDE. Pour le secteur du logement a toujours fait partie des travaux de l'OCDE, puisqu'il est un secteur clé de l'activité économique et l'un des objectifs aussi de l'activité économique, puisqu'il est l'un des déterminants du bien-être, de la manière de vivre. Cela dit, au cours des 5 dernières années, nous avons mené un très vaste projet pour examiner de manière systématique les politiques du logement dans un sens très large, c'est-à-dire les politiques du logement au sens propre, hein, disons celles qui sont portées par les ministères du logement dans les pays où ils existent, mais aussi toutes les autres politiques nombreuses qui ont une influence souvent déterminante sur le secteur du logement, comme la politique fiscale, dont il a été beaucoup question ce matin, et aussi les questions d'organisation des pouvoirs entre les différents niveaux de gouvernement auxquels il a aussi été fait référence. ceci pour le côté des intrants, si l'on veut, des politiques publiques, mais aussi sur le plan des résultats. Et ça, là aussi, il s'agit d'un sujet qui a été beaucoup mis en exergue ce matin, le fait que le logement a des effets sur des objectifs de politique publique qui sont différents. Il a évidemment un rôle essentiel pour l'efficacité économique. Il a un rôle central dans l'inclusion sociale. Et il influence de manière déterminante les performances environnementales. Et il est fréquent que les politiques menées pour améliorer les résultats le long d'un de ces axes entraînent des conflits avec les objectifs le long des autres axes. Et ce sont ces interactions entre politiques, ces synergies parfois, conflits souvent entre objectifs qui ont été au cœur de nos travaux, qui ont été menés de manière pluridisciplinaire au sein de l'OCDE et aussi dans nos relations avec nos pays membres, puisque l'OCDE est une organisation très intriquée avec l'organisation administrative de ces pays membres. Nous travaillons pour des comités qui rassemblent les représentants de différents ministères. Et pour ce projet, il était particulièement important que ceux qui représentent les différents ministères, logement, finances, affaires sociales, etc., travaillent ensemble pour avoir un diagnostic commun et que les recommandations, elles aussi, soient cohérentes entre ces domaines. Pour donner donc des éléments comparatifs sur la France, je dirais que la France est vraiment un pays très typique de l'OCDE pour le secteur du logement. Souvent, nous avons beaucoup de graphiques. Nous avons les deux grands livres dont vous voyez les couvertures sur la diapositive précédente. Et souvent, la France est au milieu du graphique. Là, elle n'est pas très loin du milieu. Il s'agit de la répartition des logements suivant la manière dont ils sont occupés. Propriétaire occupant sans prêt, propriétaire occupant emprunteur, locataire social, locataire privé. Nous avons aussi des indicateurs sociaux. Là, il s'agit d'illustrer un débat qui fait surface régulièrement sur la difficulté pour les jeunes d'accéder au logement. On voit que pour l'instant, la France se trouve à peu près dans la moyenne pour ce qui est de la répartition des jeunes, donc moins de 30 ans, entre le fait d'habiter avec leurs parents, d'avoir leur propre logement. Alors, on est encore loin de situations comme celle, par exemple, de la Grèce ou de l'Italie, où on a vraiment une difficulté particulièrement marquée d'accès au logement pour les jeunes générations. Maintenant, si on regarde dans une perspective dynamique, et là aussi en écho au débat de ce matin, si on regarde l'évolution des prix du logement ajusté pour l'inflation, ce qui est vraiment essentiel de faire quand on regarde les pays de l'OCDE, puisque certains d'entre eux ont eu des performances d'inflation très différentes des autres, on voit que la France, comme les autres pays de l'OCDE en moyenne, a eu une augmentation des prix du logement, mais vraiment une augmentation très forte, notamment fin des années 90, début des années 2000. Donc on a eu une dynamique au cours des trois dernières décennies très forte des prix du logement en France. Et ce qu'il est important de souligner, c'est que la France ne dispose pas, pour expliquer cette dynamique, de raisons démographiques. La démographie française est à peu près, est proche de la moyenne de l'OCDE, un petit peu en dessous. Or, la démographie est vraiment un déterminant fondamental des prix du logement à long terme. Notre déterminant, c'est la prospérité. Vraiment, l'un des premiers emplois du revenu, lorsque celui-ci augmente de manière pérenne, c'est le fait de disposer de davantage d'espace. Le professeur Tranois, ce matin, rappelait l'appétit répandu en France, mais qui est vraiment général, vers le fait d'avoir plus d'espace, ce qui souvent se traduit par la maison individuelle. Et on voit que la France est l'un des pays de l'OCDE qui, au cours des 30 dernières années, a eu la croissance du revenu par habitant parmi les plus faibles. Qu'est-ce qui explique cette situation? Eh bien, c'est le fait qu'on construit assez peu en France. Là, ici, en pourcentage du stock de logements, la construction neuve se situe en France en dessous de la moyenne. Cela dit, il faut prendre toutes les explications en même temps pour vraiment comparer les pays. On ne peut pas comparer le taux de construction indépendamment de la démographie, du revenu, des coûts de la construction, du niveau des taux d'intérêt. Lorsqu'on met tous ces ingrédients ensemble et qu'on regarde dans quelle mesure l'offre de logement s'ajuste à la demande, c'est ce que cet indicateur ici d'élasticité, de réactivité, si l'on veut, de l'offre à la demande nous montre. On voit que la France, qui est désignée ici par l'histogramme en rouge, se trouve vraiment du côté des pays où cette réactivité est nettement en dessous de 1. 1 est normalisé pour correspondre à un ajustement normal sur un marché. Si on est significativement au-dessus de 1, c'est qu'on peut avoir des phénomènes de surajustement, comme on le voit ici aux États-Unis et comme on a pu observer d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'histoire des États-Unis, des phénomènes de surajustement, voire même parfois de bulles sur le marché de la construction immobilière. Quels sont les déterminants du prix à long terme des logements ? Donc, j'ai déjà mentionné la démographie, qui est vraiment essentielle, l'augmentation des revenus également. On est capable de quantifier aussi que la disponibilité des terrains, là aussi, de manière, c'est presque tautologique de le dire, mais néanmoins, c'est quelque chose qu'on constate aussi de façon empirique, et disponibilité qui peut être contrainte par la géographie, mais aussi souvent, bien sûr, par la réglementation, par la norme, les politiques d'occupation des sols, mais aussi un autre type de norme peut peser sur l'offre de logement, c'est la réglementation des loyers, puisque la construction en vue de louer est un des moteurs de la construction. Lorsque la rentabilité de la construction est déprimée par un encadrement strict des loyers, on constate une réduction de l'offre de logement, et de l'offre de logement globale, pas seulement de l'offre locative. Ce n'est pas seulement qu'on va avoir plus de logements occupés par des propriétaires et moins à louer, mais aussi même l'offre globale, puisque ce canal d'activation de la construction est empêché de fonctionner librement. Enfin, un autre élément important, ce sont les réductions fiscales qui sont très abondamment utilisées dans les pays de l'OCDE et qui ont un effet quantitativement très fort sur le prix à long terme des logements. Autrement dit, et c'était mentionné ce matin de manière vraiment séduisante par le vice-président avec sa référence au paradoxe de Zénon, les réductions fiscales, c'est vraiment exactement ça. On met de l'argent, beaucoup d'argent, en général, sur la table pour permettre à une vague de personnes voulant être primo-accédantes d'accéder en effet à la propriété. Cela va les aider, mais ensuite, les prix du logement reflètent cette manne fiscale et ensuite, la porte se referme pour les autres. Elle devient même plus compliquée et si on veut continuer, il faut mettre encore plus d'argent sur la table. Et on a des phénomènes de ce type qui se sont produits au sein des pays membres et qui souvent se terminent soit par un épuisement fiscal, soit par un crash du marché où on peut avoir d'ailleurs la conjonction des deux. Et puis, on a évidemment les coûts de la construction qui pèse sur le logement, et ça, c'est là aussi assez évident, mais important de le rappeler aujourd'hui, puisque nous sommes dans une période où nous venons de vivre des hausses exceptionnelles du coût de la construction. Alors, en fin de compte, est-ce que tout cela est important ? Eh bien, en un mot, oui, puisque nous ne parlons pas d'un phénomène économique mineur, mais de près de 30% de la consommation des ménages, donc vraiment, le logement est de loin le premier poste de consommation. Et ce qui est important là, de voir sur ce graphique pour la France, c'est de voir que ces grandeurs, qui sont des grandeurs lourdes, ont évolué. Et donc, en 20 ans, on a eu une augmentation de plusieurs points de pourcentage dans le poids du logement dans les dépenses de consommation. En contrepoint à cela, on peut dire que la France a réussi de bonnes performances sur le plan social, puisque malgré cette augmentation générale du coût du logement, on a le fait que, pour essayer ici le carré, on a le fait que les ménages à bas revenus, le 20% des ménages aux revenus les plus faibles, sont, par comparaison internationale, relativement peu nombreux à vivre dans des logements surpeuplés. Et cela, c'est le résultat du parc de logement social français qui fait partie des plus étendus parmi les pays de l'OCDE. Notre objectif souligné au cours des débats de ce matin concerne la décarbonation du logement, qui a un lien direct avec les questions de pauvreté énergétique. Et on voit que là, la France se situe vraiment dans la moyenne de l'OCDE pour ce qui est des ménages qui peinent à conserver leur logement au chaud. Si on regarde la performance carbone, en France, elle se trouve à 0,7 tonnes de CO2 par an et par habitant, les émissions liées au logement, ce qui est une bonne performance et qui est liée pour l'essentiel à la très faible teneur en carbone de l'électricité qui est consommée dans les logements français. Et donc, un élément comparatif plus explicite sur la réglementation pour montrer que la France fait partie des pays les plus réglementés au sein des pays membres de l'OCDE pour le marché du logement locatif. Ici, à gauche, vous voyez l'encadrement des loyers et la mesure a été faite en 2019. Nous la renouvellerons prochainement. Donc, avant que l'encadrement des loyers ne devienne plus restrictif, notamment dans les grandes villes, mais la France faisait déjà partie des pays où il était relativement restrictif. Et la France est l'un des pays où la relation entre propriétaires et occupants d'un logement est la plus encadrée, là aussi avec des conséquences sur à la fois l'accès au logement et la mise à disposition de logements locatifs. Et enfin, et avec cela, je repasserai la parole à mon... Merci beaucoup, Madame la Présidente, le collègue Rüdiger Arendt. Nous avons une gouvernance du foncier qui est caractérisée par un empilement de responsabilités à différents niveaux administratifs et un très grand pouvoir qui est donné aux municipalités. Municipalités qui sont de très faible taille en France par comparaison internationale, ce qui donne prise au phénomène d'opposition à la construction par les voisins, not in my backyard, qui peut trouver à s'exprimer dans le dispositif d'organisation de la réglementation foncière en France. Merci beaucoup.
Oui, et je vais prendre un peu le sujet que Boris vient de commencer. Je vais vous parler d'abord de l'organisation de l'usage du sol en France avec une certaine vue internationale et surtout aborder le nimbyisme. Je vais parler des objectifs potentiellement contradictoires. Et pour finir, je vais parler de la captation de la plus-value foncière et comment elle peut contribuer à améliorer l'abordabilité du logement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la caractérisation de l'usage du sol en France? C'est vrai qu'en France, la matière d'occupation du sol et l'utilisation des parcelles relève des communes. Ce n'est pas le cas partout. C'est bon. Il y a d'autres pays où il y a ça aussi. Ce n'est pas non plus rare. Mais le problème est que si vous faites plan de désoccupation des sols au niveau local, ce que vous décidez, ce qui va nous pas seulement concerner vous, ça va aussi avoir un impact sur vos voisins. Et là, le problème, c'est que ça, c'est souvent pas proprement pris en compte, et c'est pour ça qu'on peut avoir des formes d'animisme. Et là où le bas blesse, c'est que vous savez vraiment beaucoup de communes en France et vous voyez que globalement le nombre des municipalités et des régions en France c'est quasiment c'est deux tiers de tous les autres pays de l'OCDE si on exclut les États-Unis, juste pour vous donner une idée de vraiment à quel point la France est un outlier par rapport au nombre de communes. Et bien sûr le problème de nimbyisme, c'est pas un problème qui est particulier à la France, vous savez ça partout, mais si vous avez autant de petites communes, le problème explose. C'est vraiment ça le problème. Non, maintenant en France il y a aussi un certain nombre de recours à cette situation. Normalement, on pourrait aussi penser que pour fusionner des communes, mais généralement, c'est perçu comme politiquement inacceptable en France. Il y a d'autres pays où c'est la même chose. Alors, il y a le recours à des accords intercommunaux. Et ça, bien sûr, peut aider dans cette situation-là. Et ça permet à différentes communes de convenir d'un plan d'occupation des sols qui couvre un territoire plus large et donc réduit le risque des conflits. Mais là, cette possibilité en France, par exemple par les SCOT, il s'agit des dispositifs qui sont sur la base de volontariat. Et c'est typiquement complexe de négocier ce type de contrat. Et il fonctionne seulement bien si toutes les communes qui participent trouvent un entrée dans cette coopération. Et même, bien sûr, si ces structures intercommunaux sont très fortement désirables, et en principe, elles seraient bien essayées de renforcer, en ce moment, elles présentent quand même un remède très imparfait contre l'immigrisme en France. Et si je peux vous donner une piste, je parlais un jour avec les présidents du Portland, ce qui est une métropole aux États-Unis. Et si vous voulez, c'est une intercommunauté dans le système français, si vous voulez. Et je lui ai demandé pourquoi chez lui ça marchait beaucoup mieux que dans d'autres structures similaires aux États-Unis. Il me disait, la différence, c'est que moi, je suis élu directement. Et ça me donne beaucoup de légitimité vis-à-vis des autres maires des communes. En France, ce n'est pas le cas. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les intercommunautés ne sont pas aussi efficaces qu'ils pourraient être autrement. J'avais dit que j'allais parler des objectifs potentiellement contradictoires. Et la France, historiquement, la planification de l'occupation du sol, c'était surtout axé sur un objectif de développement économique. Et maintenant, on a une démarche plus globale qui intègre des objectifs sociaux et environnementaux, ce qui est en principe une bonne chose. Alors, dans la planification, on cherche désormais également à protéger l'environnement et à restreindre l'étalement urbain afin de limiter les effets du changement climatique. Et certains aspects du processus de planification visent à favoriser la cohésion sociale, par exemple par la construction massive des logements. Par contre, cette évolution a aussi compliqué les objectifs de la planification, parce que des arbitrages entre ces objectifs divers peuvent imposer des problèmes, et parce que les différents échelons administratifs infranationaux peuvent attribuer des points différents aux divers objectifs des plans d'occupation de sol. Et en particulier dans les villes, il peut y avoir des conflits entre les objectifs de soutenabilité environnementale et de l'abordabilité des logements. En fait, les mesures qui visent à restreindre l'étalement urbain peuvent, si mal conçues, limiter l'offre des logements et donc nuire à leur abordabilité. Bien qu'il y ait de nombreuses mesures qui résoutent ces conflits, dans la réalité, nombreuses politiques avancent un de ces buts en dépense de l'autre. Pour éviter cela, l'OCDE a mené une étude sur le sujet qui montre en détail quelles mesures à privilégier et lesquelles à éviter. Et, hop. Et maintenant, on va commencer à parler de la captation de la plus-value foncière et comment elle peut contribuer à l'abordabilité du logement. Je vais commencer à parler, expliquer un peu qu'est-ce que c'est la captation de la plus-value foncière. Comme son nom indique, c'est un outil qui permet de récupérer les plus-values foncières générées par l'aménagement urbain, notamment les investissements en infrastructures publiques et les autorisations d'aménagement. L'aménagement urbain tend à provoquer une augmentation de la valeur des terrains et en même temps qu'il induit des coûts supplémentaires pour la collectivité, en particulier par des nouveaux équipements et espaces publics nécessaires. La captation de la plus-value foncière est un moyen pour la puissance publique de récupérer au moins partiellement ces plus-values foncières auprès des propriétaires des terrains afin de financer au moins partiellement les coûts pour la collectivité. La captation de la plus-value foncière repose sur le principe selon lequel l'action publique doit générer un bénéfice public. Cet outil a traversé les époques et les contextes géographiques et il était déjà utilisé à l'Empire romain. L'OCDE a mené une étude comparative mondiale sur les pratiques de captation de la plus-value foncière qui couvre 60 pays dans la France. Et je vous parle de la plus-value foncière, de la captation de la plus-value foncière, parce que c'est un outil qui peut être utilisé pour financer la construction des logements abordables. Elle peut aider à résoudre la crise du logement. Et pour ça, il y a deux instruments principaux. Il y a des contributions d'urbanisme par des promoteurs immobiliers. Et qu'est-ce que c'est ça? En échange de l'obtention d'autorisation de nouveaux aménagements, des projets de densification ou l'obtention d'exceptions aux règles d'urbanisme, les promoteurs immobiliers peuvent être soumis à l'obligation de dédier une partie de leur aménagement à des logements abordables. Les autorisations d'aménagement augmentent la valeur du foncier et en échange, les promoteurs construisent des logements abordables. Par exemple, certaines villes, aussi en France, exigent jusqu'à 30% des logements locatifs abordables dans les nouveaux projets d'aménagement. Le deuxième instrument est la gestion stratégique du foncier par les pouvoirs publics. Par exemple, les pouvoirs publics peuvent acheter des terrains au prix fixé avant l'annonce d'un investissement public ou d'un changement de zonage. Le gouvernement aménage ensuite les terrains conjointement avec des promoteurs privés ou publics, avec une partie des terrains dédiés à des logements abordables. Une fois l'aménagement terminé, les terrains sont vendus et les coûts d'investissement sont récupérés, notamment à travers les plus-values foncières générées par les changements de zonage et l'aménagement. En France, la législation autorise l'utilisation de ces deux instruments pour financer la construction de logements abordables, ce qui est assez rare au niveau international. Et ce que je veux dire, c'est que même si la France n'utilise pas cet outil de captation de la plus-value comme on pouvait, elle est quand même dans une situation structurelle pour l'utiliser qui est bien mieux d'un point de vue juridique que beaucoup d'autres pays. Alors le potentiel, déjà, c'est utilisé plus que dans d'autres pays, mais le potentiel est aussi beaucoup plus facilement à mettre en œuvre, on va dire, que dans d'autres pays et que dans d'autres systèmes légaux. Cependant, concernant les contributions d'urbanisme, même si elles sont utilisées systématiquement pour compenser les coûts supplémentaires pour la collectivité engendrée par les aménagements privés, elles varient fortement selon les municipalités et sont globalement assez bas. Par exemple, en 2019, les municipalités et les départements ont récupéré à travers ces contributions d'urbanisme ce qui correspond seulement à 4% du coût public total engendré par les aménagements privés. Ceci montre que les contributions d'urbanisme pourraient être utilisées davantage pour financer la construction de logements abordables. Les villes de plus petite taille manquent également de capacités techniques pour utiliser cet instrument, par exemple pour estimer les coûts publics engendrés par les aménagements privés. C'est donc souhaitable d'améliorer les capacités techniques des administrations locales, en particulier dans les plus petites villes. Concernant la gestion stratégique du foncier par les pouvoirs publics, il y a de plus en plus d'établissements publics fonciers au niveau national et local pour gérer le foncier et construire les logements. Par exemple, l'établissement public foncier d'Île-de-France possède 2,2 milliards d'euros de terrain et a récupéré 266 millions d'euros en 2020 grâce à une gestion foncière stratégique. Comme pour des contributions d'urbanisme, cette utilisation stratégique du foncier est moins prééminente dans les villes plus petites. Étendre la stratégie des établissements publics fonciers dans les villes qui sont de moindre taille pourrait leur aider pour construire des logements abordables. Pour résumer, l'organisation de l'usage des sols a un impact fort sur les logements. Les politiques et pratiques de l'usage des sols peuvent donc être des moteurs ou des freins importante pour le logement. Pour que leur impact soit positif, il faut bien sûr faire les bons choix, mais aussi veiller scrupuleusement à ce que les détails techniques de la mise en œuvre ne pervertissent pas les intentions politiques. Merci pour votre attention.